place publique.
La grève des cheminots paralyse la France depuis hier. Le mouvement a été engagé contre le projet de réforme de la SNCF. Il est soutenu en Suisse par le SEV, le syndicat du personnel des transports. Le chargé de communication du SEV pour la Suisse romande, Yves Sancet, nous en parlera d'ici quelques instants. Les Suisses voteront le 10 juin prochain sur l'initiative dite « Monnaie pleine ». Le texte a été lancé par une association. Il demande que la Banque nationale suisse soit désormais la seule à créer de l'argent et donc de retirer cette possibilité aux banques. Débat à partir de 18h30 avec un des partisans de l'initiative, Jean-Marc Haim, et le président du Parti libéral radical jurassien, Yann Ruffer, qui milite contre le texte. La convention d'Istanbul qui vise à protéger les femmes de tout type de violence est entrée en vigueur le 1er avril en Suisse. Le texte concerne 45 pays. La coprésidente de la conférence suisse contre la violence domestique, Geneviève Bouchpang, évoquera les enjeux de ce texte à partir de 18h45.
Jusqu'à 19h, place publique. François Comte.
Bonsoir. La France se retrouve face à un mouvement social de grande ampleur. Les cheminots se sont mis en grève depuis hier. Leur mouvement va s'étaler pendant plusieurs jours par semaine sur une durée de 3 mois. Il vise à empêcher le projet de réforme de la SNCF. Comment ce mouvement est perçu en Suisse? Pour en parler, nous recevons un membre du SEV, le syndicat suisse du personnel des transports. Yves Sancet, vous êtes le chargé de communication du SEV pour la Suisse romande. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, comment expliquer cette mobilisation importante des cheminots en France?
Eh bien, peut-être parce que depuis longtemps, il n'y avait pas eu une telle unité au niveau des syndicats et de toute la gauche, hein, face à une attaque centrale du gouvernement Macron qui veut faire de ce bras de fer la marque de son quinquennat, quitte à légiférer par ordonnance, donc en force. Et cette attaque est vue comme injuste par les cheminots parce qu'ils pensent que c'est pas à eux de payer le prix de décisions politiques qui ont été prises dans le passé, comme par exemple le tout TGV ou le manque d'entretien des lignes régionales. Et ils ne voient pas en quoi la suppression du statut de cheminot va améliorer les dysfonctionnements de la SNCF, d'autant plus qu'ils sentent un climat de cheminot bashing, de SNCF bashing, avec des intox du gouvernement qui les traite d'enfants gâtés, qui essaie de jouer l'opinion contre des privilèges soi-disant de cheminots, qui sont souvent en fait que des avantages accordés face à des heures pénibles, des conditions de travail assez éprouvantes. Et donc, ils défendent non seulement leurs conditions de travail, mais aussi, ils se battent contre le casse du service public plus général. Ils rejoignent en ça d'autres secteurs, puisqu'il n'y a pas que les cheminots qui sont en lutte. Hein.
Alors, vous avez évoqué le gouvernement français qui a tout de même accepté, finalement, qu'il y a un débat classique et pas un débat par ordonnance, signe qu'il y a quand même un petit peu des choses qui bougent dans ce dossier, mais comment vous, le SEV, vous positionnez par rapport à ce mouvement de grève?
Disons que nous sommes forcément solidaires avec nos collègues français, d'autant plus que la Suisse n'est pas épargnée par ce vent de libéralisation, et notamment autour de la concurrence. On a par exemple Domo Horizon qui vient de se voir attribuer 3 lignes, hein, qui vont concurrencer directement les CFF, donc l'arrivée des bus low cost par exemple. Depuis longtemps, il existe aussi la possibilité pour les cantons de mettre en concurrence les lignes de bus. On l'a vu à Neuchâtel avec la ligne 612-613 qui a été attribuée à Carpostal et non pas à la compagnie du canton de Neuchâtel. Donc sur plein de dossiers, on voit que les conditions de travail sont aussi en danger en Suisse et de casser un système qui marche quand même relativement bien en Suisse, des chemins de fer.
Alors on va revenir à la situation suisse, mais si alors on fait la comparaison avec la France, un pareil mouvement de grève comme celui-là, il paraît impossible en Suisse. Pourquoi?
Pourquoi impossible? En 1918, je rappelle que les cheminots étaient à la tête, hein, de la grève générale. Et en 2008, donc il y a 10 ans exactement, les cheminots des officines et à Bellinzone, hein, sont partis en grève alors que la CCT et CFF prônent la paix du travail absolue. Donc qu'est-ce qui est impossible? On voit qu'à un certain moment, quand on est face à une entreprise qui prend des mesures très difficiles et qui sont mal vécues par les salariés, ils peuvent partir en grève. Alors c'est vrai qu'actuellement, c'est la CCT-CFF qui déconseille de telles mesures, mais on est dans un moment où on est en train de négocier une convention collective avec la direction des CFF qui sont dans une position très dure avec des revendications extrêmes. Et donc, pour l'instant, on est plutôt dans un moment de pause dans la négociation. Et on pourrait se retrouver dans une situation de vide conventionnel au 1er janvier. Et alors, l'option de la grève deviendrait une option tout à fait légitime pour le SEV.
Donc, c'est quelque chose que vous n'excluez pas. Mais vous l'avez dit, hein, cette convention, elle est en cours de renégociation. Elle dure jusqu'à la fin 2018. Quels sont alors, vous, dans le cadre de cette négociation-là, vos moyens de pression sur la direction des CFF, hormis la grève, en tout cas pas pour le moment?
Bon, évidemment que le premier moyen qu'on a, c'est d'interrompre les négociations quand les CFF persistent dans leurs revendications extrêmes. Donc c'est ce qu'on a fait la semaine passée. Par ailleurs, nous mobilisons notre base, nous la tenons informée des négociations et notamment de ces positions très très dures de la direction des CFF. Et puis par la suite, diverses options sont envisageables, dont malheureusement je ne peux pas vous dire davantage pour des raisons que vous comprendrez. Enfin, il arrive, avant d'arriver à la grève, qui est un peu l'arme ultime, il existe d'autres moyens de pression, en particulier en Suisse, où disons qu'on a d'autres moyens, à part la grève, des manifestations, un certain nombre de choses qui peuvent aussi être efficaces. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que ça fait partie de notre stratégie qui est en cours.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a eu récemment l'octroi de concessions pour des lignes de bus grande distance. Ça, c'est un motif d'inquiétude concret pour vous ?
Alors, il y a ces bus longue distance, effectivement. Il y a aussi la mise en concurrence pour les grandes lignes de chemin de fer. Il y a tout un débat qui est actuellement entre les BLS, le SOB et les CFF pour qu'ils se mettent d'accord. Parce que s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, le risque, c'est que dans 2 ans, dans 3 ans, l'Office fédéral des transports ouvre carrément le marché à ces entreprises low cost, Flix, Train et autres qui effectivement risquent de casser le marché, à la fois de créer un dumping pour les employés, un dumping salarial, mais aussi notre inquiétude, c'est pour les travailleurs, mais c'est aussi pour les usagers, pour la sécurité des passagers, et puis tout un système de tarification, de correspondance qui est assez complexe en Suisse. Et puis d'introduire une concurrence qui n'a pas de sens ne pourrait que faire souffrir à la fois les usagers et les gens que nous défendons.
Vous dites
on l'a vu avec les exemples en Grande-Bretagne et en Suède où effectivement ces privatisations et cette ouverture du marché n'a amené que des dégâts et n'a pas amené grand chose de positif, en tout cas pour les personnes.
Oui, à tout dernier mot, vous dites concurrence qui n'aurait pas de sens. Or la concurrence, elle est là aussi pour faire pression sur les prix à la baisse. Pourquoi elle n'aurait vraiment pas de sens selon vous en Suisse?
Parce que justement, c'est un système assez complexe où il devait y avoir une vingtaine de compagnies qui se feraient la concurrence à leur bonjour pour vos correspondances, pour trouver sur quelle où acheter les billets. Et puis surtout, ces compagnies, on l'a vu par exemple, Flixbus en Allemagne, à partir du moment où elles tuent la concurrence avec des prix bas, donc dans un premier temps, c'est vrai, les prix baissent, et quand ils se retrouvent en monopole, alors là, ils remontent les tarifs de manière beaucoup plus importante. Et on l'a vu en Angleterre aussi, où la privatisation a amené une explosion du prix du transport. Donc nous, on ne veut pas ça pour les gens, puisqu'on veut un service public pour tout le monde. Et puis surtout, ces compagnies, quand elles sont privatisées, quand le marché est ouvert, on ne veut que prendre les lignes rentables. Et le risque, c'est des déserts ferroviaires dans les régions périphériques. Et là, ça, on ne veut pas non plus.
Yves Sancet, on rappelle donc que vous êtes le chargé de communication du SEV pour la Suisse romande. Vous étiez avec nous pour parler notamment de la grève en France, mais aussi de la situation au niveau des transports en Suisse. Merci d'avoir été en direct dans Place Publique. Bonsoir.
Bonsoir, je vous en prie.
Place Publique.
La Suisse pourrait passer au système de la monnaie pleine. Le peuple devra se prononcer sur une initiative en ce sens le 10 juin prochain. Le texte demande que la Banque nationale suisse soit la seule à pouvoir créer de l'argent liquide et électronique. Ce dernier étant produit aujourd'hui également par les banques privées lors d'octroi de crédits et d'achats de placements financiers. C'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Pour en débattre, nous recevons un des membres de l'association qui a lancé l'initiative, Jean-Marc Heim, ainsi que Yann Ruffer, le président du Parti libéral radical jurassien, également banquier par ailleurs de son État. Yann Ruffer qui combat le texte. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Alors Jean-Marc Heim, c'est un objet complexe que celui de la monnaie. Quels sont finalement les objectifs de votre initiative ?
Alors, tout d'abord, il faut savoir, parce que je pense que les auditeurs ne le savent pas tous, que la monnaie pleine existe déjà, ce n'est pas une nouveauté, mais qu'elle n'est accessible aujourd'hui principalement qu'aux banques, qui font tous leurs paiements entre elles en monnaie centrale. Le simple citoyen et les entreprises non bancaires, elles, n'ont accès qu'aux pièces et aux billets, qui représentent plus que 10% de la masse monétaire. Et tous leurs paiements électroniques, nous sommes obligés d'utiliser la monnaie privée des banques. Alors cela pose trois problèmes principaux, c'est-à-dire que ça pose un problème de sécurité de l'argent. Les avoirs de nos comptes en banque sont tributaires des risques commerciaux des banques. Si une banque fait faillite, l'argent disparaît. Et il y a un problème de stabilité économique et financière, c'est-à-dire que les grandes banques comme UBS et Crédit Suisse peuvent créer de l'argent quasiment sans limite. Le problème, c'est qu'elles ne créent pas de l'argent pour soutenir l'économie réelle, puisque nos PME se sont vus réduire leur crédit de 40% durant ces 10 dernières années, alors que 80% de la monnaie de ces banques sert uniquement à alimenter la spéculation sur les marchés financiers et immobiliers qui créent des bulles et des crises. Et donc c'est la collectivité qui en a le moins profité qui doit en faire les frais. Et le troisième problème, c'est une perte de souveraineté. Aujourd'hui, ce n'est pas la Banque nationale qui a le contrôle de la monnaie, mais ce sont des banques comme UBS et Crédit Suisse qui créent 50% de la monnaie en Suisse, la monnaie bancaire suisse. Et il faut savoir que 60 à 80% de leurs actionnaires sont des étrangers. Donc la Suisse est loin de pouvoir mener une politique monétaire souveraine. Dans ces conditions, ce sont tous les domaines de la vie qui sont soumis à la finance internationale, ce qui vide complètement le sens de notre démocratie.
Alors on évoquera ces différentes problématiques, mais Yann Ruffer, on l'a bien compris, le but, un des buts principaux de cette initiative, c'est de protéger les clients d'une éventuelle faillite bancaire. Ça permettrait aussi à l'État d'éviter de devoir renflouer les caisses des banques, comme en 2008.
Alors oui, mais il faut voir quand même que le système bancaire suisse fonctionne très bien. À un moment donné, on a eu une crise en 2008 qui n'est pas une crise helvétique, qui est une crise mondiale qui a été importée des États-Unis via le subprime. Donc à un moment donné, même en ayant la monnaie pleine en Suisse, ça n'aura absolument pas protégé le système ici en Suisse, parce que justement, les banques au niveau international sont interreliées entre elles. Et puis à un moment donné, il suffit qu'il y ait une ou deux grandes banques qui font faillite, et puis c'est tout le système qui est remis en question. Donc avec ceci, avec la monnaie pleine, on ne résout pas le problème. Et puis finalement, on veut changer de système avec un système qui fonctionne, ma foi, très bien. Et puis on veut réparer quelque chose qui n'est pas encore cassé. Donc c'est ça qui me pose un petit peu problème à l'heure actuelle, parce que le système bancaire suisse est un système qui fonctionne très bien. On a eu effectivement des crises. La dernière en date, elle venait d'UBS, qui a été recapitalisée par la Confédération, mais qui a été remboursé par la suite. À un moment donné, il faut quand même se rendre compte que chaque activité humaine, à un moment donné, amène à une crise. Et puis, essayer de vouloir éviter à tout prix toute crise, c'est tout simplement impossible.
Et vous estimez que l'initiative ne pourrait pas empêcher une crise comme celle-là ? Votre réponse, Jean-Marc Heim ?
Je pense que si la monnaie pleine avait été en vigueur au moment de la crise 2008, eh bien, il n'y aurait pas eu besoin de sauver l'UBS, parce que la monnaie pleine ne vise pas à éviter les crises bancaires, comme le dit Monsieur Ruffer. Les crises bancaires auront toujours lieu. La monnaie pleine vise à sécuriser à mettre à l'abri notre argent face aux crises bancaires, ce qui n'est pas la même chose.
Oui, mais si on prend un exemple concret, vous voulez justement maintenant que la Banque nationale suisse se substitue aux banques pour, par exemple, les prêts hypothécaires ou bien les prêts à des entreprises. Comment est-ce que vous voulez que la Banque nationale suisse soit aussi proche que le sont les banques cantonales ou bien les banques de proximité pour l'octroi d'un prêt hypothécaire ou bien d'un prêt sur machine d'une entreprise, alors que la Banque nationale suisse ne connaît pas le tissu économique? Et puis, il y a aussi un élément qui est quand même assez assez troublant dans votre proposition, c'est que à l'heure actuelle, quelqu'un qui veut consentir un prêt hypothécaire, il doit réunir 20% de fonds propres et puis les 80% sont prêtés par la banque. Donc finalement, on crée un effet de levier avec ceci. Cet effet de levier est de 5, c'est-à-dire que on crée de la richesse pour un montant initial qui est de 20%, on crée 100% de richesse par rapport à ceci. En voulant changer le système, vous empêchez tout simplement cet effet de levier d'exister, puis vous sclérosez tout le système économique que l'on vit dans notre pays.
Alors Jean-Marc Haim, justement sur cet aspect, est-ce que finalement, si votre initiative devait passer, est-ce que ça ne risquerait pas de provoquer des obstacles pour obtenir un crédit, soit pour les entreprises, soit pour les particuliers, vous et moi?
Alors absolument pas du tout, contrairement à ce que vient de dire M. Ruffert, le crédit ne sera pas centralisé auprès de la Banque nationale, puisque les banques privées resteront entièrement compétentes comme aujourd'hui pour l'octroi de crédit. La Banque nationale n'accordera aucun crédit directement à l'économie, elle n'en accordera qu'aux banques comme aujourd'hui. Et donc le crédit sera même mieux assuré qu'aujourd'hui, puisque l'initiative oblige la Banque nationale à garantir l'approvisionnement en crédit de l'économie réelle par le biais des prestataires privés, donc c'est-à-dire les banques. Donc les banques resteront toujours proches de leurs clients exactement comme aujourd'hui. C'est elles qui continueront à décider les crédits. Et de plus, la monnaie pleine ne réduit pas la masse monétaire. Il y aura exactement autant d'argent qu'aujourd'hui. Simplement, les banques ne pourront plus en créer à volonté, librement comme elles veulent. Elles devront utiliser, comme elles prétendent déjà le faire aujourd'hui, être des intermédiaires. Elles devront utiliser l'argent de l'épargne, l'argent des emprunts qu'elles font sur les marchés financiers et à la BNS pour pouvoir octroyer des crédits, c'est-à-dire qu'elles ne prêteront que ce qu'elles ont, comme tout le monde.
Yann Ruffert, rapidement sur ce point, les banques pourront continuer à prêter de l'argent, mais est-ce qu'elles auront encore intérêt à le faire ?
De toute façon, il ne faut pas oublier que le système bancaire et puis les banques en règle générale, c'est un point d'achoppement entre quelqu'un qui veut déposer son épargne et puis celui qui veut emprunter ou bien qui veut investir quelque chose. Donc à un moment donné, c'est un point central d'une économie. Une économie qui n'a pas un système bancaire performant a des soucis justement pour se développer. Donc à ce niveau-là, c'est très important. Mais ce système de monnaie pleine, comment est-ce que vous voulez justifier les besoins de grandes banques ou bien de banques cantonales par rapport à des besoins réels? C'est ça, tout le problème de cette initiative, c'est que c'est un flou magistral, dans le sens où on ne sait pas comment la BNS va intervenir pour octroyer tel ou tel MAN à une banque qui la demanderait. Et puis, le problème, c'est qu'on attaque l'intégrité puis l'indépendance de la Banque nationale suisse après.
Jean-Marc Haim, sur cet aspect-là, vous dites ce sera à la BNS, finalement, de trouver une politique pour accorder de l'argent aux banques.
Alors l'initiative Monnaie Pleine n'impose absolument aucune politique concrète à la BNS. Elle gardera tous les moyens qu'elle a actuellement. Elle sera tout autant indépendante qu'aujourd'hui. Et puis elle décidera elle-même des moyens qu'elle utilisera. L'initiative Monnaie Pleine donne un moyen supplémentaire à la BNS qui est le contrôle direct de la masse monétaire et qui est l'élément central de la stabilité des prix.
J'aimerais qu'on aborde encore rapidement deux points. Le premier, c'est la BNS, justement. Yann Ruffert, les initiants disent que l'argent créé par la BNS sera distribué aux collectivités publiques. Il parle de plusieurs milliards par an. C'est une bonne affaire pour le citoyen, non ?
Oui, mais c'est déjà le cas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il y a un concordat qui est signé entre la Confédération et puis les cantons qui redistribue une partie du bénéfice de la BNS. Et puis même lorsque la BNS ne fait pas forcément un bénéfice, il y a une manne qui est redistribuée. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, à un moment donné, quand on parle de monnaie pleine, c'est que la monnaie pleine n'existe pas. La monnaie pleine n'existe pas tout simplement parce que la BNS, elle peut créer de la monnaie comme elle le veut. La BNS, c'est un petit peu la banque du Monopoly, quand vous jouez avec vos amis. À un moment donné, si quand on veut passer le start, au lieu de donner 4000 francs, on veut en donner 400 000, il n'y a absolument aucun problème. Donc, si vous voulez, le problème de cette initiative, c'est qu'elle s'adresse et puis qu'elle s'attaque à des mauvaises causes. Si on voulait vraiment avoir ce qu'on appelle une monnaie pleine, il faudrait que chaque franc qui est imprimée ou bien qui est créée par la Banque nationale suisse, elle soit justement garantie par quelque chose de tangible, comme de l'or, par exemple. Ça, c'était Bretton Woods avant qu'on supprime les accords. Donc, à un moment donné, la Banque nationale suisse, si elle se trompe dans l'octroi ou bien dans la création de masse monétaire et puis qu'elle crée une inflation incontrôlable, eh bien, ce sera un problème qui sera de l'ordre de la BNS, mais ce sera un problème qui va nous toucher, vous et moi.
Jean-Marc Haïm, le risque d'inflation, vous le minimisez ?
Alors, le risque d'inflation, il faut juste savoir, l'initiative MoneyPlan pose la question, qui est le mieux à même de contrôler la masse monétaire ? Une institution comme la BNS, démocratiquement légitimée et qui agit et qui est tenue dans l'intérêt général du pays, ou des banques commerciales privées qui sont tenues que par le profit maximum de leurs actionnaires ? Donc après, c'est à chaque citoyen de juger. Je suis pas si sûr que les banques commerciales se soucient beaucoup de l'intérêt général. Et donc, elles ont tendance à faire un tout petit peu trop d'inflation. Après, c'est vrai que la création monétaire est un privilège qui se fait à partir de rien. Que ce soit la BNS ou les banques privées qui le font, ça ne change rien. Sauf que... si c'est la BNS qui le fait, d'une part, les profits reviennent à l'ensemble de la collectivité, alors qu'actuellement, les profits, c'est 35 milliards en 2007 et 2015 que les banques privées suisses ont gagné en faisant de la création monétaire. C'est autant d'argent qui échappe à la collectivité. Et d'autre part, les banques sont surtout concernées par leurs profits immédiats et non pas par l'inflation qu'elles créent actuellement avec une masse monétaire surdimensionnée.
Un tout dernier mot, mais très rapidement, hein, l'un et l'autre, Jean-Marc, si votre initiative était acceptée, la Suisse serait le seul pays à appliquer finalement le système de la monnaie pleine. Très rapidement, hein, il nous reste environ une minute. Est-ce que ça ne serait pas un risque pour la place financière suisse qui est importante pour l'économie du pays ?
Absolument pas, parce qu'il faut savoir que le marché des devises internationales se fait déjà en monnaie pleine. Donc ça ne changerait strictement rien dans les relations internationales. Et puis la Suisse deviendrait un modèle puisqu'elle aurait l'argent le plus sûr du monde. Elle serait certainement suivie par d'autres pays.
Là aussi, Yann Ruffer, rapidement, ben oui, ça renforcerait le franc suisse.
Oui, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que la Banque nationale suisse fait tout justement pour affaiblir la force du franc, parce que justement on exporte 2 francs sur 3 qui sont gagnés en Suisse, ils le sont via les exportations. Si on avait un système avec une monnaie ultra blindée, comme c'est demandé, bien, on aurait un problème après au niveau de la force du franc qui s'apprécierait de manière démesurée par rapport aux autres monnaies.
Alors Jean-Marc Haïm, Yann Ruffer, merci d'avoir participé à Place Publique. Le débat va continuer en vue donc de cette initiative qui sera soumise au peuple le 10 juin prochain. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Bonne soirée.
Place publique.
Un nouvel outil international pour protéger les femmes, la Convention d'Istanbul, élaborée par le Conseil de l'Europe et signée par 45 pays, est entrée en vigueur dimanche en Suisse. Le texte entend lutter contre la violence à l'égard des femmes et notamment contre la violence domestique. En Suisse, la coordination des mesures qui seront mises en place par les cantons sera assurée par la Conférence suisse contre la violence domestique. Nous recevons par téléphone la coprésidente de cette conférence, Geneviève Bouchpang. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Alors, quel domaine, finalement, quel type de délit couvre la Convention d'Istanbul ?
Alors, quand on parle de la Convention d'Istanbul, on peut parler d'abord de ses objectifs, hein, qui visent une démarche globale pour garantir le droit de tous les membres de la société européenne à une vie privée sans violence, à protéger les personnes et, je dirais, en particulier les femmes, les jeunes filles contre les discriminations et à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes. La violence à l'égard des femmes et la violence domestique doivent, d'après cette convention, être fermement combattues au niveau régional, au niveau national, au niveau européen, grâce à des mesures coordonnées pour prévenir ces phénomènes de violence, pour protéger les victimes, poursuivre les auteurs. Et pénalement, il y a un certain nombre de formes de violence qui sont punissables. Et c'est la violence psychologique, la violence physique, la violence sexuelle, le harcèlement, les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, et les avortements ou stérilisations forcées.
Alors, vous parlez de coordination des mesures au niveau international, mais en Suisse, comment vont précisément se mettre en œuvre des mesures qui découlent de cette convention, notamment, puisque c'est votre domaine, notamment concernant la violence domestique?
Alors, la convention d'Istanbul repose sur trois piliers principaux, la prévention. Et quand on parle de prévention, on peut mettre toutes les mesures liées à la sensibilisation, mais aussi donc la sensibilisation du grand public et des différentes instances, la formation et le perfectionnement du personnel spécialisé, et puis des programmes destinés aux auteurs pour éviter la récidive. Le deuxième pilier repose sur la protection, donc la protection des victimes de violences conjugales, qu'ils soient adultes ou enfants. Alors, il s'agit souvent de femmes, mais on oublie aussi souvent que les enfants sont des victimes de la violence des adultes, même s'ils ne sont pas directement frappés, ils en subissent les conséquences à long terme. Parmi les mesures de protection, il y a aussi toutes les questions de mise en place ou de développement de refuges pour les victimes. On parle en Suisse romande de centres d'accueil. Et aussi dans les mesures de protection, la possibilité pour les migrants et migrantes victimes de violences conjugales d'obtenir un statut indépendant. Alors, puis le troisième pilier, c'est les poursuites pénales. En signant la convention, les États s'engagent en fait à poursuivre pénalement les violences et les infractions que j'ai nommées tout à l'heure.
Alors, la Suisse, elle répond déjà aux principales exigences de cette convention d'Istanbul. Mais dans quel domaine notre pays est plutôt bon élève, on va dire?
Oui, alors effectivement, les objectifs de la convention d'Istanbul concordent pour l'essentiel avec ceux qu'on a fixés nous-mêmes déjà dans les cantons ou au niveau national en Suisse, dans le domaine de la lutte contre la violence domestique depuis un certain nombre d'années, à savoir de mettre un terme à la violence, ça c'est un objectif commun, protéger les victimes et poursuivre les auteurs, et je dirais aussi de donner des pistes pour sortir de la répétition d'être auteur. Donc les dispositions de la Convention d'Istanbul ont un caractère de programme, et ça nous permet de voir qu'il y aura une facilitation pour la mise en œuvre d'un système fédéraliste. On peut aussi dire que dans l'ensemble, la Suisse satisfait déjà aux exigences de la Convention d'Istanbul, notamment dans le domaine du droit, où on dispose déjà en fait de dispositions législatives qui sont nécessaires à la mise en œuvre. Et ça, c'est le Conseil fédéral qui l'avait rappelé dans son message de présentation de cette convention.
Et quels sont, à contrario, alors les points à améliorer en Suisse, les points où vraiment il y a du travail à amener, à apporter?
Alors moi, je dirais qu'on peut évoquer les répercussions de la violence domestique en Suisse et constater qu'il reste beaucoup de travail à faire globalement. Une femme sur cinq est victime de violence domestique dans sa vie. En 2017, la police a dû réaliser plus de 17 000 interventions liées à la violence domestique. Une intervention sur deux, il s'agissait d'une situation de couple. Un quart de ces interventions, c'était un ancien couple ou un ancien partenariat. Donc on voit que ça reste quand même un phénomène très important. En 2017, toujours 21 personnes sont mortes après avoir subi de la violence domestique et 53 ont survécu à une tentative d'homicide. 27 000 enfants qui subissent chaque année la violence domestique des adultes nous montrent un peu que le phénomène n'est pas encore vraiment pris en main, même si depuis de nombreuses années on y travaille. On voit aussi que dans la prise en charge, le taux d'occupation des maisons d'accueil, des fameux refuges dont je parlais tout à l'heure, est parfois tellement élevé que certaines femmes et enfants n'ont pas pu y être admis. On a dû trouver des solutions suivant les régions. La situation est très variable. Et puis, on doit aussi dire que d'après une estimation prudente qui avait été dressée en 2013, les coûts qui sont induits par la violence domestique se situent entre 188 et 310 millions de francs chaque année. La dépense d'une ville de taille moyenne. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, même si on n'a pas attendu cette convention pour le faire, mais il y a encore beaucoup de travail de coordination dans différents domaines.
S'il fallait vraiment retenir un point en particulier dans lequel une amélioration doit être apportée en Suisse, quel serait ce point ?
Alors moi, je pense que ce qui est particulièrement important, c'est d'entériner un phénomène qu'on voit maintenant de plus en plus, c'est-à-dire que d'un phénomène plutôt privé, avant la violence domestique, c'était l'affaire d'une sphère privée, ça devient un phénomène de politique publique. Et je dirais que cette convention d'Istanbul, en ayant fait tout le processus de ratification, de consultation et maintenant de mise en œuvre, on est dans cette logique de faire un phénomène privé, un phénomène de politique de santé publique, de politique de prévention de la criminalité, de politique aussi économique, puisque c'est des coûts importants. Ces éléments-là sont importants.
Vous avez l'impression qu'en Suisse, on considère encore trop que la violence domestique est un phénomène qui appartient au privé ?
Alors, ça dépend vraiment des milieux. Pour les professionnels de longue date, on voit que c'est les professionnels qui sont impliqués, et les ONG et un certain nombre de milieux politiques, on voit qu'ils ont fait le pas. Mais je crois qu'il faut encore donner de l'ampleur à cette prise de conscience pour qu'on en fasse vraiment une priorité parmi les priorités. Les conséquences sont quand même très importantes. Et là, je pense qu'il faut encore une prise de conscience des politiques encore plus forte, je dirais, par rapport à ce phénomène.
Prise de conscience aussi de la population, là, il y a aussi un travail à effectuer.
Alors là, les enjeux sont différents, effectivement, mais les bureaux de l'égalité, les Interventionsstelle dans les cantons s'activent depuis plusieurs années à faire beaucoup d'informations pour que, notamment, les victimes trouvent où s'adresser en cas de situation problématique, que les témoins sachent aussi être actifs et alerter, notamment la police en cas de danger. Donc ça, c'est un travail qui doit s'intensifier, mais il n'a pas le même, c'est pas la même population cible, si vous voulez, que le travail auprès des politiques. Là, le travail auprès de la population, c'est plus pour pouvoir informer, dire qu'il y a qu'il y a des réponses, qu'il y a des solutions pour apporter un soutien aux victimes, pour dire aux auteurs qu'ils peuvent prendre en main leur manière de fonctionner, essayer de le dépasser en suivant notamment des programmes pour les accompagner.
Est-ce que vous ne craignez pas finalement que cette convention, elle se limite à un catalogue de bonnes intentions, sans réel suivi, sans conséquences concrètes ?
Alors, moi, je ne crois pas, dans la mesure où cette convention s'inscrit dans un processus qui est déjà en cours. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de professionnels, il y a beaucoup d'ONG qui sont déjà impliqués aussi dans les cantons. Les responsables politiques sont de plus en plus impliqués dans la prise en charge de ces problématiques et la recherche de solutions. Donc, je crois que la convention va être peut-être l'occasion de mettre un focus de plus sur la thématique, mais le travail se fait notamment depuis au moins une quinzaine d'années dans la plupart des cantons, et on va probablement pas se contenter d'un discours. Ça va être l'occasion pour venir concrètement avec des propositions, et c'est aussi le but de notre conférence de regrouper nos perceptions de la problématique, de regrouper les synergies entre la partie francophone, où c'est surtout les bureaux de l'égalité qui sont en charge de ces dossiers, et puis dans la partie alémanique, c'est des services d'intervention qui sont plutôt rattachés à la police et à la justice. On essaye de mettre ensemble nos compétences, nos analyses et nos bonnes pratiques pour pouvoir aller de l'avant, et on va pas... Tous les milieux intéressés ne vont pas laisser la Convention d'Istanbul n'être qu'une belle rhétorique. Ça sera la suite d'engagement.
Eh bien, c'est sur ce pari, sur l'avenir, qu'on va se quitter. Merci Geneviève Beauchpang d'avoir été en direct pour répondre à nos questions, donc sur cette Convention d'Istanbul contre la violence faite aux femmes, qui est entrée en vigueur le 1er avril en Suisse. Merci, bonne soirée.
Merci de votre intérêt. Au revoir.
Place publique.